vote pour la science avec Isabelle Burgoyne.
Bonjour à vous, j'espère que vous portez bien. Les élections municipales du 2 novembre se rapprochent à grands pas et se tiendront dans plus de 1100 municipalités au Québec. Nous voulons contribuer à votre réflexion avec une seconde émission au croisement de la politique et de la science. Nous parlons aujourd'hui des enjeux scientifiques que vivent les villes, les changements climatiques, bien sûr, causent des inondations et des érosions côtières et accélèrent la dégradation des infrastructures municipales. Il y a aussi le manque d'eau, la pollution de l'air, la pollution sonore, plus intense dans les métropoles, ou encore des choix énergétiques et de transport actifs ou non actifs. Pour être résilientes, les villes doivent faire des choix éclairés et donc prendre en compte les avis et les expertises scientifiques. Elles sont d'ailleurs de plus en plus nombreuses à se doter de conseillers et de conseillères scientifiques en chef et même de scientifiques en résidence à l'hôtel de ville. Alors, quels sont les enjeux liés à la science au municipal? Pour le savoir, restez là. Je vote pour la science aujourd'hui. Nous nous intéressons aux villes, l'élection municipale oblige, et plus particulièrement aux enjeux scientifiques qu'elles rencontrent. Pour en parler, je suis en compagnie de Laureline Berthaud, titulaire d'un doctorat en hydrologie et scientifique en résidence à la municipalité régionale de Comté-Beauce-Centre. Bonjour.
Bonjour.
Je suis aussi en compagnie de Valérie Patrault, conseillère municipale à Montréal dans l'arrondissement d'Outremont et candidate au doctorat à Polytechnique Montréal. Bonjour.
Bonjour.
Et aussi avec Julie Maude Normandin, scientifique en chef de la ville de Longueuil depuis 2 ans et chercheur associé au Cité ID de l'ENAP. Qu'est-ce que c'est que le Cité? Bonjour d'abord.
Bonjour.
Qu'est-ce que c'est que le Cité ID?
Donc, le CTID Living Lab est un groupe de recherche de l'École nationale d'administration publique qui a été créé afin de travailler conjointement avec les villes et les acteurs locaux pour mieux anticiper les risques, s'adapter de façon proactive, gérer les événements lorsqu'ils arrivent, puis également se rétablir. Et là, quand je parle de risques ou de crises ou de grandes perturbations, ça va autant des risques climatiques, donc par exemple les inondations ou encore à la gestion des pandémies, à des transformations plus sociales et technologiques d'envergure, mais qui demandent une grande capacité d'adaptation, comme par exemple l'intelligence artificielle dans les villes.
Oui, on est déjà les deux pieds dedans dans notre sujet. Alors, j'aurais voulu juste nous rappeler que la crise du logement, la transition écologique, la gouvernance, les municipalités québécoises rencontrent de plus en plus d'enjeux politiques complexes et la science peut soutenir leurs décisions et leurs actions en matière, par exemple, de gestion de l'eau, de transition socio-écologique, ou de transport actif. Elle peut les aider à innover, à être plus résiliente. Bien sûr, chaque ville est différente et possède ses besoins propres. Face aux îlots de chaleur, de déserts alimentaires, de gestion des polluants, les municipalités gagnent à faire siéger à l'hôtel de ville un ou une scientifique pouvant donner un avis neutre et bien informé. Donc, je vais commencer avec vous, Madame Normandin. Quel est le rôle de la science au sein des municipalités et donc le vôtre depuis 2 ans au sein de Longueuil?
Mais il faut bien savoir que dans les municipalités, bien avant la création des conseillers scientifiques ou des scientifiques en chef, il y avait déjà l'utilisation de la science. Donc, par exemple, il y avait déjà des collaborations avec des chaires de recherche. Il y avait aussi beaucoup de professionnels qui ont des rencontres avec des scientifiques ou qui s'intéressent à leurs travaux. Mais depuis quelques années, avec, je pense, l'arrivée là des scientifiques en chef ou des conseillers scientifiques en chef dans les villes, notre mandat est vraiment d'amplifier l'utilisation de cette science par différents types d'acteurs. Donc, comment répondre aux questions des élus, par exemple, comment répondre aux questions de la direction générale dans une vision stratégique avec des informations scientifiques, puis également comment soutenir la mise en œuvre au sein des équipes. Donc, mon mandat, c'est vraiment d'amplifier l'utilisation de la science et de faciliter, de créer des ponts, en fait, avec entre les chercheurs et la ville.
OK, vous êtes une facilitatrice de la science, c'est ça?
En grande partie.
Madame Patrou, comme élue municipale de Montréal, vous êtes impliquée sur les dossiers reliés à la transition socio-écologique, l'économie circulaire et la prise en compte de la science dans les décisions. Quels sont les leviers possibles pour intégrer la science dans la prise de décision en contexte municipal?
Ben moi, comme scientifique, j'aimais beaucoup. Ben, mon rôle était, un de mes rôles était de poser des questions, et donc il faut demander et puis aller plus loin. Et je pense que ça. Avec, il faut se comprendre, il y a avec les fonctionnaires en place et puis...
il faut peut-être vulgariser un petit peu certains termes.
Exactement.
J'ai compris que ça fait 8 ans et que vous ne vous représentez pas.
Effectivement.
Après deux vous mois, avez vécu la pandémie, 8 ans, c'est... Oui. Est-ce que ça a été difficile comme scientifique de traverser un petit peu tout ça?
Ça paraît loin, hein.
Oui, ça paraît loin,
de côté, la pandémie. Mais effectivement, la pandémie, ça a été un moment important dans les dernières années, mais ça a aussi permis, des retombées intéressantes. Et puis, la science, on a vu pendant la pandémie que c'était... On s'est tous retournés sur la science, comment on peut s'en sortir. Et les clés étaient beaucoup des clés scientifiques au niveau médical, mais au niveau de la ville, c'est sûr, on sait, nous, les retombées qu'on pouvait faire. Et puis, ça a été notamment pendant la COVID, il fallait la distanciation. Mm-hmm. Et la distanciation, c'est une des retombées qui a fait en sorte qu'on a plus de rues piétonnes, par exemple.
Oui.
Parce qu'il a fallu offrir des espaces publics pour que les gens puissent se rencontrer.
Mais de manière éloignée.
Éloignée. Mm-hmm. Et puis, on y a pris goût. Ça, c'est des exemples de retombées.
Oui, vive les rues piétonnes, finalement. Merci beaucoup. Madame Berthaud, vous êtes scientifique en résidence donc pour appuyer la MRC Beau Centre dans l'élaboration de son premier mandat climat. Pouvez-vous me présenter d'abord ce territoire qu'on connaît peut-être un peu moins et votre travail
Oui, la MRC Beau Centre, c'est une... MRC qui est dans la région de Chaudière-Appalaches.
Oui.
La superficie est un peu plus grande, un peu plus de 2 fois plus que Montréal, l'île de Montréal. Il faut imaginer 70% de couverts forestiers.
Oui, la forêt.
Oui, on est traversé par la rivière Chaudière. Mm-hmm. Donc c'est forte vallée où on a les 10 municipalités qui sont au bord de la rivière, puis plus en amont. Et on a 93% d'activité agricole.
Oui, c'est vrai.
Et 20 000 habitants, si je ne l'ai pas déjà dit.
Donc, votre activité à vous, là, vous venez d'arriver au début de l'année.
C'est ça. Donc, moi, je me forme au conseil scientifique. Donc, le mandat est d'accompagner la MRC pour faire des avis, des conseils. Mais là, c'est spécifiquement sur le plan climat.
Oui.
Donc, le plan climat, c'est une planification stratégique pour viser des mesures d'adaptation au changement climatique, des mesures de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et aussi faire des mesures de transition climatique. Donc, mon travail, en fait, c'est d'accompagner la MRC à identifier les aléas qui se produisent sur le territoire, à parler à toutes les parties prenantes du territoire.
À faire un peu de vulgarisation, vous aussi.
C'est ça, cultiver le changement, cultiver la science, planter des graines.
Oui.
Et l'objectif, c'est de vraiment travailler le plus possible ensemble pour se dire, d'accord, voici nos vulnérabilités sur le territoire, voici les risques. On utilise les historiques de ce qui s'est produit auparavant. On regarde des projections climatiques et comment certains aléas peuvent évoluer. Et on se dit, d'accord, on peut agir sur ça, ça, ça. Donc, il faut agir aussi, penser aux conséquences des mesures que l'on va prendre et de penser d'abord aux groupes les plus vulnérables est une bonne chose, en fait, pour réussir une transition sans accentuer les inégalités sociales et aussi de santé pouvant exister déjà sur le territoire.
Une transition équitable, finalement, pour tout le monde. En pensant aux plus vulnérables, on pense à tout le monde, finalement.
Oui.
On bonifie pour tout le monde. Merci. Madame Normandin, la ville de Longueuil travaille également sur un plan climat. Vous avez d'ailleurs récemment accueilli la scientifique de données Sana Rawafi en résidence chez vous. Quels sont les enjeux spécifiques liés au changement climatique de votre municipalité?
Mais évidemment, pour les aléas, on a les aléas qui touchent la région métropolitaine de façon générale. Mais oui, tout à fait. Donc, chez nous, en fait, c'est l'équipe de la direction de l'environnement qui est responsable de l'élaboration du plan climat et du suivi de la mise en œuvre. En effet, Sana, donc, vient d'arriver chez nous comme scientifique en résidence. Donc, une autre scientifique en résidence pour pouvoir nous aider dans l'utilisation des données probantes, notamment pour un tableau de bord pour le plan climat. Donc, vraiment comprendre à la fois les actions que nous avons prévues dans le plan climat, mais de pouvoir déjà commencer à penser comment nous allons mesurer les impacts de nos efforts. On a développé un plan d'action et une stratégie de résilience aux fortes pluies depuis les deux dernières années, où on est vraiment venu utiliser les connaissances scientifiques de plusieurs façons. Donc, d'abord, pour bien comprendre comment il y a une transformation du climat actuel et également le climat futur. Puis c'est important dans une municipalité où plusieurs infrastructures que l'on construit vont être en place dans 50, 60, 80, les 80 prochaines années. Donc, en termes de pensée stratégique pour une ville, comprendre comment les différents scénarios de gaz à effet de serre ont des impacts différents en matière de manifestation d'aléas sur notre territoire, c'est vraiment important parce que nos décisions actuelles vont avoir des conséquences pour les décennies à venir. Comment la pluviométrie va changer au sein de la ville, comme quelles sont les actions qui sont déjà mises en place et puis qu'on devrait pouvoir amplifier au sein de la ville. Puis dans certains cas aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a des enjeux particuliers sur le territoire, puis on est venu ajouter des projets de recherche. Parce que, par exemple, augmenter l'utilisation des jardins d'eau de pluie.
Oui, les parcs éponges, comme on les appelle.
Exact, les parcs éponges, mais les jardins d'eau de pluie également chez le citoyen, voir de quelle façon le citoyen peut faire sa part. On sait très bien avec les études scientifiques que c'est pertinent, mais à l'échelle d'un territoire particulier, j'ai besoin d'atteindre quel pourcentage pour avoir un impact direct. Ça, on a besoin d'une étude très localisée pour pouvoir le faire, par exemple. Donc, c'est souvent cette transformation-là de la connaissance scientifique, je trouve, qui manifeste au niveau des villes, c'est-à-dire que souvent, on a des connaissances scientifiques générales, mais on doit les appliquer dans un territoire précis, dans un quartier, puis là, on doit venir tenter de travailler quel est le seuil pour avoir un impact, par exemple. Puis là, ça nous prend d'autres types de connaissances scientifiques, d'autres types de collaborations.
C'est bien, c'est la science appliquée, c'est un terrain de jeu pour vous, finalement. Une municipalité, ça peut être aussi vu comme un paquebot qui n'évolue pas assez vite. Madame Patrou, comment naviguer entre les attentes des citoyens et citoyennes et la complexité d'une ville?
Ouais, c'est une grande question.
Oui,
mais... avec la lorgnette de la science, disons, ça amène évidemment des réponses à une partie de ces questions et ça permet de convaincre aussi avec des bases solides une partie de la population. Après, on parlait de changement et oui, le changement, c'est aussi un secteur de la science qui évolue. Hein. Moi, je m'intéresse notamment dans mes travaux de doctorant à ce secteur-là parce que on se rend compte que même si on a les connaissances, si on a la technologie, si on sait ce qu'il faut faire, une des clés, c'est comment les faire accepter. Et donc, comment mieux vulgariser les résultats de la science, mais et comment travailler avec la population pour faire en sorte qu'on arrive à mettre
des
en place
actions.
Nos actions et qu'elles soient bien acceptées. Parce que 4 ans de mandat, c'est vite fait. Et puis, les clashs politiques, ça peut arriver. Et on ne veut pas reculer. Il faut avancer. Alors, est-ce que c'est la stratégie des petits pas sur certains dossiers? Je pense que oui. Mais il y a d'autres dossiers qui font plus consensus et donc à ce moment-là où on peut aller plus vite à mon avis. Donc il faut c'est une stratégie à doser, ça devient très politique et puis effectivement il y a des grandes questions, c'est important de voir à quel rythme et puis de connaître la population qu'on représente et à quel rythme elle va accepter les
changements.
Hein, exactement.
Oui. Madame Berthaud, vous étiez aux journées synergiques plan climat organisées par l'Union municipale du Québec à Drummondville dernièrement. Pouvez-vous nous présenter cet événement et nous dire pourquoi c'est important le travail de mettre des lunettes climatiques aux services municipaux?
Oui. Alors, cette rencontre organisée par l'UMQ a permis de réunir une cinquantaine de charger de projet, là, d'élaborer les plans climat dans une cinquantaine de MRC. Oui. Donc, c'était très intéressant, en fait.
Ça fait beaucoup de monde. Ça fait beaucoup d'MRC.
Oui. Et c'était une rencontre très riche et très sincère. En fait, vraiment, on se parlait des choses, on s'échangeait des bonnes pratiques, etc. Mmh. L'intérêt de faire ces rencontres-là, en plus de se parler sur des forums ou lors d'autres rencontres organisées par l'UMQ, c'est de travailler sur des cas pratiques que l'on peut rencontrer, de se conseiller, de se donner des retours, des conseils, d'approfondir certaines actions que l'on pourrait mettre en place.
Oui. Donnez-nous un exemple d'action, par exemple.
On veut construire de nouveaux lotissements.
Oui.
D'accord. Où est-ce qu'on veut construire ce nouveau lotissement? Et parce que une des solutions à l'adaptation, c'est d'augmenter un peu la densité de l'habitation.
Au cœur des villes, hein, finalement.
Oui, puis même sur le territoire de la mer, c'est Beauce Centre. Donc, où est-ce qu'on met ce lotissement? Est-ce que c'est une zone où on a un îlot de chaleur? Dans ce cas, est-ce qu'on fait en sorte, avec notre lotissement, d'avoir un espace vert pour faciliter... les sorties si à l'intérieur il fait trop chaud. Dans ce bâtiment même, est-ce qu'on va utiliser certains matériaux plus que d'autres? Est-ce qu'on va penser à l'isolation? Est-ce qu'on fait des logements qui sont hors marché? Est-ce qu'on fait... En fait, il faut vraiment penser à chacune de nos actions et de nos réflexions en termes de justice et d'équité pour pouvoir avancer et ne pas creuser toutes ces inégalités. Donc voilà, on échangeait sur ça. On se parlait de bonnes pratiques qu'on avait faites, par exemple pour mobiliser la population et les acteurs locaux sur l'île de la Madeleine. L'idée, c'était par exemple de faire beaucoup d'ateliers et puis de laisser l'art aussi entrer, l'art et la créativité entrer dans ces mobilisations pour que les gens puissent vraiment prendre le sujet comme ils l'entendent. Donc oui, il y a une base scientifique, etc., mais il faut que les gens puissent accepter les changements à venir et vraiment prendre le sujet. On parlait de faire des ateliers autour de cartographie aussi. Ça peut aider de visualiser les aléas qui se passent sur le territoire, les bâtiments qui sont touchés. Donc, on se tourne plutôt vers les municipalités, donc on va penser aux bâtiments municipaux. Puis, c'est très intéressant de visualiser tout ça et de se dire, OK, spatialement, ça se passe comme ça. Et voilà, on essaye de se donner toutes sortes de bonnes pratiques. Puis il y avait une rencontre, une présentation à la fin sur l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on fait de ça?
Oui, dans les changements climatiques, oui, c'est intéressant.
Parce que c'est un outil qu'on utilise énormément. Et donc oui, utilisons l'intelligence artificielle, mais attention au revers de cette intelligence artificielle qui peut créer des effets climatiques, qui
aussi,
peut creuser des inégalités sociales aussi.
Oui,
parce que si on veut aller vers des mesures qui sont plus connectées sur les téléphones, etc., est-ce qu'on va joindre toute la population?
C'est des bonnes questions.
Donc, on était là voilà, pour soulever toutes les bonnes questions, pour partager, puis échanger aussi. Il y avait des représentants du ministère de l'Environnement et des affaires municipales et de l'habitation, qui sont les porteurs, en fait, les financeurs de...
des projets,
de ce programme ATCL, accélérer la transition climatique locale.
Entendu, merci. Madame Normandin, comment les villes peuvent être plus résilientes? C'était le sujet, d'ailleurs, de notre émission la semaine dernière. Mais comment elles peuvent l'être grâce à la science? Donnez-nous peut-être quelques exemples.
J'abonde dans le même sens que mes collègues. Pour moi, la résilience doit d'abord se développer de façon multiple.
Oui.
Donc, je vais vous donner deux exemples.
Oui.
Pour la résilience aux fortes pluies, nous avons d'abord décidé que, en matière d'adaptation, on devait s'intéresser à l'adaptation du domaine public, donc les parcs éponges, mais également comment on allait repenser nos infrastructures, le verdissement également de la ville. Mais donc, il y avait une grosse partie sur l'adaptation dans l'espace public, mais également l'adaptation dans l'espace privé. Donc, le citoyen, comment peut-il lui-même adapter sa résidence? Comment on peut également... communiquer avec le citoyen afin qu'il participe à l'adaptation du territoire en ayant lui-même une meilleure gestion des eaux pluviales, par exemple. Un des projets auxquels on a participé, c'est un projet avec Architecture sans frontières Québec qui a mené des recherches pour tenter d'identifier quelles étaient en matière de bâtiments, les meilleures pratiques pour rebâtir les bâtiments ou encore les matériaux les plus résistants à l'eau, puis qui permettraient non pas de rebâtir à l'identique,
ben non,
et plutôt de rebâtir de façon adaptée, donc de reconstruire en mieux, ce qu'on appelle en anglais là, le « build back better ». Donc, en fait, c'est reconstruire en mieux pour que quand l'événement, malheureusement, risquant de se reproduire, les conséquences ne soient pas les mêmes. Donc, c'est ces différentes dimensions-là sur lesquelles il faut agir. Donc, agir avant un événement, pendant, puis également profiter de, malheureusement, après un sinistre pour se questionner et rebâtir de façon plus résiliente.
Oui, j'imagine qu'il y a plusieurs types de connaissances scientifiques dans ce dossier-là.
Absolument. Donc, on passe de l'ingénierie à l'architecture, à l'hydrologie, mais également la santé publique aussi. Oui. Les recherches de la santé publique sur les dimensions d'équité est très importante. Des dimensions également de participation citoyenne, de la recherche en participation citoyenne ou encore en communication environnementale.
Ou en acceptation sociale aussi, peut-être,
oui,
probablement.
Ben tout à fait. Puis et donc souvent, ce qu'on va vouloir faire ici, c'est de venir chercher différents types d'approches. Donc, dans certains cas, est-ce que, par exemple, on pourrait soutenir des approches de sciences citoyennes pour que les citoyens participent eux-mêmes au projet? Dans d'autres cas, est-ce qu'on fait de la vulgarisation scientifique pour pouvoir expliquer aux citoyens mais pourquoi on s'adapte? Donc, en effet, la dimension interdisciplinaire, surtout pour les enjeux très complexes que l'on rencontre aujourd'hui.
Comme le climat, finalement, hein, les changements climatiques.
Exactement.
Hein, c'est ça.
Très important.
Madame Patrou, vos travaux de doctorat portent sur l'écofiscalité et les politiques publiques pour rendre la filière plastique plus durable. Pouvez-vous me parler des enjeux reliés à l'intégration des innovations au sein d'une municipalité? Comment, quel est le rôle d'une scientifique du côté de l'innovation?
Ben c'est sûr que la science appliquée amène en général à des innovations, à des changements de méthodes de la part des villes, des municipalités. Donc, il faut arriver à les intégrer. Le changement, l'innovation, ça apporte un changement. Et donc, faut arriver. Souvent, moi, je me rends compte que on aime refaire ce qu'on connaît. Hein, alors, il faut arriver
à sortir de notre zone de confort, finalement.
Exactement, pour pouvoir contrôler ou à savoir apprécier l'importance de l'innovation et puis être à l'aise avec. Donc, les appels d'offres, c'est des outils pour aller chercher ça. Les projets pilotes, ce sont des outils aussi pour mettre en place et puis pour tester des choses. Et je pense que c'est une avenue, le format projet pilote là, pour qui peut vraiment permettre d'intégrer des innovations. Et je pense que il y a du travail à faire entre les municipalités, entre elles, parce que souvent,
oui, aussi,
quand une municipalité innove, les autres municipalités regardent ce qui est fait et puis intègrent ensuite ou pas, ou changent leur réglementation de la même façon ou adapté à leur situation. Donc, ça c'est d'autres leviers importants à regarder. Là, moi, vous parlez du plastique.
Oui.
Alors,
il y a un petit problème auquel on est confronté,
oui,
des fois.
Exactement, ça se rajoute comme problématique au niveau planétaire. Il y a des actions locales qui sont possibles, notamment au niveau des municipalités. À Montréal, on a choisi certains types de bannissement, par exemple.
Oui.
De produits à usage unique. Mais il y a d'autres villes qui ont choisi autre chose. Par exemple, Prévost, qui a misé plus sur la réutilisation. Mm-hmm. Alors, Prévost, c'est une ville d'une autre dimension que Montréal, avec des enjeux... travailler sur le plastique, ça amène aussi à travailler sur les matières résiduelles, mais l'idéal, c'est de travailler à la réduction à la source.
Oui,
donc, c'est pour ça que la ville de Montréal a travaillé sur plutôt le bannissement, qui lui semblait une avenue... plus réalisable dans son contexte.
Et puis, plus rapide peut-être
et plus rapide, mmh. exactement. Et Prévost, elle s'est permis d'aller de façon différente, à innover différemment avec des commerçants locaux pour changer la donne. Et ça, je pense, les deux pratiques sont vraiment intéressantes et puis vont amener dans le futur des changements. Donc, avec la reddition de comptes de ces projets-là, ça va être intéressant de voir pour les futures municipalités quelle innovation dans ce contexte-là répond plus à son contexte et comment ça va pouvoir être intégré dans sa municipalité. Donc, j'espère qu'il faut se parler, il faut regarder ce qui se fait ailleurs et puis
qu'est-ce qui marche
et ouais. qu'est-ce qu'on est à l'aise d'implanter dans son contexte.
Entendu. Je vais finir avec vous, Madame Berthaud, mais très très rapidement, parce que je sais que vous êtes spécialiste de l'étiage. Ça, c'est le débit minimal des cours d'eau. Expliquez-nous ce que c'est et comment ça touche nos municipalités, mais en une minute.
Bon, l'étiage, c'est l'inverse des crues. Donc, c'est un phénomène naturel. Le problème, comme tout ce qui touche au changement climatique, c'est que cet étiage peut encore plus diminuer plus longtemps et encore plus. Ce qui fait qu'en hiver et en été, en fait, on a des moments où on a peu d'eau. Donc, en hiver, ça peut être problématique pour recharger, par exemple, les nappes phréatiques. Et en été, ça peut être problématique pour irriguer les champs, par exemple. Donc, pardon, votre question, c'était...
C'était justement ce que c'était et comment ça touche les municipalités.
Comment ça touche les municipalités? Ça peut toucher les municipalités parce qu'il faut potabiliser de l'eau toute l'année. Donc, il faut faire en fonction des fluctuations de l'eau dans les cours d'eau, dans les nappes phréatiques. Donc, il faut regarder les usages, il faut regarder la gestion de l'eau. Peut-être utiliser des compteurs un jour.
Ah oui, compteurs d'eau.
Des compteurs d'eau, parce que vraiment, on a besoin, dans notre gestion de l'eau, de penser à la potabilisation de l'eau, aux activités agricoles, industrielles, mais surtout et avant tout, parce qu'on n'a pas fait le lien encore, à l'environnement, à la biodiversité, dont on dépend, toute notre société, en fait, tout notre développement de société dépend de l'environnement qu'on utilise, en fait, à nos fins. Donc l'eau est le parfait exemple pour dire, ok, regardons, faisons attention à notre usage de l'eau, regardons partout où est-ce qu'on l'utilise, comment on l'utilise, puis comme pour les plastiques, comme pour d'autres choses, on va regarder à diminuer son utilisation, à regarder si on en prend soin, à regarder au niveau de la qualité, etc. etc. Il y a plein de problématiques qui peuvent s'ajouter à une bonne gestion de l'eau.
Oui, il n'y a aucune municipalité qui est coupée de l'eau, surtout au Québec.
Non, si une municipalité veut s'agrandir et qu'il y a un manque d'eau, comme on l'a pu le voir dans certaines articles de journaux, c'est une vraie question.
Oui, tout à fait. Ben, merci beaucoup. On était en compagnie de Laureline Berthaud. Vous venez de l'entendre, titulaire d'un doctorat en hydrologie, scientifique en résidence à la municipalité régionale de Comté-Beauce-Centre.
Financé par les fonds de recherche du Québec.
Julie Maud Normanda, scientifique en chef de la ville de Longueuil et chercheuse associée aux cités ID de l'ENAP, et de Valérie Patrault, conseillère municipale à Montréal dans l'arrondissement d'Outremont et candidate au doctorat à Polytechnique Montréal. Merci à toutes les trois.
Merci.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vote pour la science. C'est une production de Science Presse avec Radio-VM, à la régie Daniel Fortin, à la recherche cette semaine, la réalisation et le micro Isabelle Burguin. Si vous avez aimé l'émission, partagez-la. Vous pouvez aussi suivre la page de Je vote pour la science sur le site de Science Presse. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une très très belle semaine à notre antenne.
Jin Jiahua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique pour qui la conscience...